où l'on partage des récits humains et des discussions authentiques sur l'importance d'une justice accessible pour tous. Écoutez, soyez touchés et découvrez un univers fascinant. C'est un rendez-vous les mardis de 11h à 11h30 sur les ondes de CIBL.
On s'enfuira dans un train de nuit.
Rejoignez-moi, Francis Desilets, pour une émission captivante où les invités partagent leurs histoires. Découvrez les arts de la parole et les actualités dans le monde du conte. Autour du conte, dimanche 17h et en rediffusion le mercredi 12h30.
CIBL 101.5, Montréal.
Vivre Montréal. Montréal.
Alors, ici CIBL. CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 101.5, au cœur de Montréal.
Bonjour et bienvenue à L'Effet durable, l'émission de la Maison du développement durable sur les ondes de CIBL 101.5. Alors aujourd'hui, la journée de la banane et surtout de la banane équitable. Et aussi, on va parler de recherche dans le domaine de l'agriculture pour décarboner, notamment avec l'utilisation du propane vert. Et on parlera également de la migration des populations animales qui est davantage présente là, avec les changements climatiques. Donc, en dernière partie d'émission. Mais pour commencer, j'ai le grand bonheur de m'entretenir avec Lynn Morissette, qui est biologiste marine et cofondatrice de Mission Milton. Bonjour, Lynn.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin.
C'est un grand plaisir.
Pour nous aussi. Donc, cofondatrice de Mission Milton avec Jimmy Vigneux. Là, on va parler aujourd'hui du défi nettoyage 1000 gestes pour la nature. C'est la cinquième édition. Et qu'est-ce qui va être important à retenir là, pour ce défi? Où est-ce qu'on s'inscrit? À qui ça s'adresse?
Bien, ce qu'il faut retenir, c'est que le défi est devenu en 5 ans comme un moyen citoyen porté par la jeunesse. Moi, c'est ça que je trouve magnifique, là. Depuis la création, c'est près de 50 000 jeunes, principalement aux primaires, qui ont été mobilisés pour poser un geste pour la planète. Puis c'est pas anodin parce qu'on parle d'environ 15 tonnes de déchets qui ont été retirés de la nature à ce jour via ce projet-là. Puis scientifiquement, c'est essentiel. Là. On se rappelle, moi, je travaille sur le plastique depuis des années maintenant. Puis ces plastiques-là, ça peut mettre jusqu'à 400 ans à se décomposer dans l'environnement. Donc, chaque fois qu'on ramasse un déchet, bien, c'est un polluant de moins qui pourrait se briser en microplastique, s'intégrer dans la chaîne alimentaire, puis nuire à la faune. Là. Donc, c'est vraiment important. Puis en 5 ans, ça s'est amélioré ou ça a grandi, ce grand projet-là des 1000 gestes pour la nature. Maintenant, il y a un balado qui est offert par le magazine Curium qui donne la parole à des jeunes du secondaire, du cégep. Donc, on élargit aussi la gamme d'âge qui est impliquée dans ce projet-là parce que c'est eux qui vivent les effets du dérèglement climatique, puis c'est eux qui passent à l'action en ce moment. Puis, tout ça, ben c'est une belle collaboration entre le magazine Les Débrouillards, les explorateurs, Curium. Puis, pendant tout le défi qui commence aujourd'hui, il va y avoir toutes sortes de prix aux participants. Puis, ça, c'est grâce à un soutien du gouvernement du Québec. Là. Donc, c'est vraiment un projet qui grandit bien. La première année, on appelait ça 1000 gestes pour la nature parce qu'on s'était donné comme objectif de faire 1000 gestes. Puis là, ben ça grandit, puis c'est beaucoup plus que 1000
oui,
maintenant.
Oui, j'imagine bien. La quantité de personnes qui participent, le taux de participation semble très élevé et j'imagine qu'il y a une augmentation aussi d'année en année.
Oui, puis ce qu'on observe, c'est un phénomène d'amplification collective. Là, en 2024, l'année dernière, c'était 13 619 gestes. Donc, au début, c'était 1000, puis chaque année, c'était un peu plus. Puis l'année dernière, 13 000. C'est quoi ces gestes-là? Ben, c'est des nettoyages individuels, des actions qu'on peut faire en famille ou à l'école. Et puis, c'est un effet domino qui fonctionne. Quand il y a une classe qui participe, ben l'école, normalement, va suivre. Puis quand il y a une école qui commence à faire ça, souvent, ils se lancent des défis entre écoles, puis là, il y a une, puis des fois même entre régions, mm-hmm. puis là, les autres écoles vont suivre. Donc, cette année, ce qu'on veut faire, c'est battre un record, puis atteindre 1000 gestes. Donc, ça, 20 000 gestes. Donc, ça continue de s'appeler 1000 gestes, mais cette année, comme on a eu 13 000 quelques l'année dernière, on vise le 20 000, puis ça, ben 20 000, c'est plus qu'un chiffre, là. C'est une réponse à une pression environnementale mm-hmm. qui est mesurable. Oui. On le voit dans les rapports scientifiques à l'ONU, entre autres, on mentionne que c'est entre 75 et 199 millions de tonnes de plastique qui polluent déjà les océans, qui est là, puis chaque année, c'est 14 tonnes de plastique supplémentaires qui s'ajoutent chaque année, mm-hmm. tout le temps. Donc, c'est important de se pencher sur cette problématique-là. Mm-hmm. Puis, ça marche avec la synergie entre ces magazines jeunesse là, qui sont nos collaborateurs, puis tous les partenaires, puis toutes les écoles, puis les jeunes qui décident d'embarquer dans cette belle folie-là avec nous, mm-hmm. bien, ça fait une vraie différence.
Oui, c'est vraiment des super belles collaborations, en effet. Et là, comme vous l'avez dit, ça s'adresse aux écoles, il y a des garderies qui participent. On peut oui. aussi participer à niveau individuel, en tant qu'individu ou en famille, comme vous l'avez dit. Il y a un système d'inscription quand même en ligne pour pouvoir accéder peut-être à des trousses d'informations ou pour participer au concours en tant que tel.
Oui, il y a un site web qui s'appelle 1000gestespourlanature.com, puis là-dessus, il y a toutes sortes de matériel éducatif pour accompagner soit les parents ou les enseignants à comment faire pour poser un geste sur la nature, comment organiser aussi les activités autour de ça. Puis on les rejoint aussi par les canaux des trois magazines, mm-hmm. Débrouillard, Explorateur puis Curium, par le podcast que Curium a créé pour cette année. Puis tout ça, ben ça permet de aussi récolter de l'information parce que on va chercher les ressources sur le site, mais c'est aussi là où on voit l'ampleur des impacts qui sont posés avec tous les gestes qu'on vise. Donc, il y a le petit compteur là, avec le nombre de gestes qui vont être posés à chaque jour. Ça commence aujourd'hui, puis on va le voir monter comme ça, on l'espère, jusqu'à 20 000.
Et là, ça dure sur près d'un mois quand même, ce défi, mmh. donc tout le printemps.
Oui, tout le printemps. Puis c'est à une période clé, hein, parce que là, présentement, les bancs de neige fondent mm-hmm. et avec cette fonte-là, ressurgissent tous les déchets. Moi, j'ai fait la route entre Montréal puis chez moi à Rimouski il y a deux jours. Je suis arrêtée dans une halte routière. C'était épouvantable mm-hmm. la quantité de déchets qui sont ressortis du banc de neige et remis en circulation dans l'environnement. Donc, on le fait à un moment de l'année où c'est vraiment très important. Puis il y a le jour de la Terre là, qui va arriver dans quelques jours aussi. Donc, c'est vraiment une période qui nous rappelle à quel point c'est un problème majeur. Mm-hmm. Mais aussi, nous, on veut pas être trop négatif, puis on veut surtout passer par l'optimisme, l'espoir pour un peu freiner l'éco-anxiété. Mm-hmm. Donc, c'est aussi un moment de se rappeler qu'on peut faire une différence, puis que tous ces petits gestes-là qui peuvent des fois avoir l'air un peu insignifiants, bien, ensemble, ça s'accumule, puis ça réussit à faire une grosse différence pour la planète.
Et je suis curieuse de savoir la manière dont vous approchez, par exemple, les écoles, les garderies, les jeunes. Je sais qu'il y a différents canaux de communication, puis avec les collaborations que vous faites avec les explorateurs, Curium et les débrouillards, vous avez mm-hmm. un rayonnement assez grand, mais est-ce que vous avez quand même, peut-être vous personnellement ou d'autres personnes de l'équipe de Mission Milton, avez-vous l'occasion d'échanger avec une partie de ces gens qui s'inscrivent, des écoles, des groupes scolaires?
Avez-vous oui, puis on va les voir, on va les visiter. Des fois, on fait des activités avec eux aussi pendant les prochaines semaines. Là, on va être vraiment sur le terrain avec les écoles. Puis oui, on les rejoint d'abord par ces magazines, mais ensuite, on a un travail de terrain puis de oui. proximité, puis on reçoit des centaines de messages, de photos, de vidéos. Mm. Il y en a qui nous écrivent que leur coin de forêt préféré est rempli de déchets puis que c'est donc épouvantable. Il y a d'autres qui nous racontent que leurs parents ont redécouvert leur quartier en nettoyant mm. dans les rues, dans les ruelles avec eux. Donc, on reçoit des histoires, des messages qui sont vraiment intéressant. Puis, même encore là, d'un point de vue scientifique, c'est des interactions qui sont précieuses parce que ça nous permet de mesurer à quel point les jeunes sont conscients des enjeux mmh. écologiques. Puis, On est en période électorale en ce moment, puis au même moment où les priorités dans la campagne électorale sont pas vraiment vouées à l'environnement parce qu'on est dans une guerre commerciale tarifaire, ben on se rend compte que chez les jeunes, ceux qui vont bientôt voter, puis ceux à qui on lègue notre planète, eux, ils ont vraiment des intérêts puis une conscience par rapport à l'environnement, puis la prochaine génération qui s'en vient sont pas mal plus allumés que nous autres sur ces sujets-là. Puis moi, ben ça me rend optimiste puis ça me donne espoir.
Ben oui, moi aussi, d'entendre ça, c'était justement une de mes questions, à savoir à quel point les jeunes, t'sais, se sentent interpellés, se sentent concernés par tout ça. Donc, je suis heureuse d'entendre qu'ils se sentent concernés puis ont envie de passer à l'action. Avec vous notamment. Et justement, ça m'amène à Mission Milton de manière un petit peu plus large. Là, vous faites un travail qui est colossal à chaque année. Vous faites, entre autres, une tournée de nettoyage partout sur le territoire québécois du printemps jusqu'à l'automne. Il y a des services de conférences. Vous proposez des activités de team building justement pour aller faire du nettoyage, mais pas que ça, parce que ça amène aussi toute cette conscientisation, l'éducation autour de ça, la sensibilisation. À travers tout ce que vous faites, là, vous parliez d'espoir, vous parliez de garder justement cette lumière-là, cet espoir-là. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir dépassé quand même par la situation des déchets? Je vous vois, Jimmy, beaucoup aussi sur les médias sociaux, Jimmy Vigneux, qui a toujours l'air positif, le sourire, l'énergie est là. Ça, je trouve ça absolument incroyable. Est-ce que vous vous sentez parfois dépassé, dire « est-ce que ça va s'arrêter? »
Bien, c'est un peu un paradoxe parce que c'est sûr qu'au début, on s'appelait la mission 10 tonnes, puis ensuite, c'était mission 100 tonnes, parce qu'on atteignait cet objectif-là, puis on changeait de nom par la suite. Puis dans l'atteinte de l'objectif ou la réussite, il y a quelque chose de très inquiétant aussi de voir qu'on est capable de ramasser autant de tonnes de déchets aussi facilement. Mais oui, donc des fois, ça, c'est un peu perturbant de voir ça, mais ce qui nous rassure puis qui nous permet de garder le sourire et l'espoir, c'est que quand on ramasse des déchets comme ça, des fois, on peut ramasser des tonnes de déchets sur un même site en quelques heures. Là. Mais c'est non seulement le nettoyage de l'environnement puis le fait que ça améliore la qualité de l'écosystème, mais ça empêche à ces déchets-là de se dégrader en petits morceaux puis de devenir, par exemple, des microplastiques. À l'heure actuelle, il n'existe aucune machine ou aucune technologie sur la planète qui est capable de ramasser des microplastiques une fois que c'est rendu dans l'océan. Donc, l'éco-anxiété, puis le côté où, oui, on a un gros problème environnemental, c'est sûr que ça dépasse, on peut se sentir dépassé des fois, mais ce qui nous sauve, je vous dirais, c'est que on est porté par l'action, puis l'action, c'est la meilleure réponse à l'éco-anxiété. Quand on a les deux mains dedans, on a l'impression qu'on est activement, maintenant, en train de faire une différence, puis ça, bien, ça permet de redonner du pouvoir aux citoyens au lieu de juste dire, bien, il y a tel problème, et regarder passivement ce qui se passe avec la planète. Donc, souvent, en étant inspirant, optimiste, puis en ayant l'impression qu'on fait une différence, bien, ça tue un peu l'éco-anxiété, puis là, bien, ça fait boule de neige, ça inspire d'autres personnes, puis ça permet d'être dans l'action au lieu d'être paralysé par les craintes.
Oui, par les craintes, puis par tout ce qui semble plus grand et plus fort que nous à travers tout ça, là, définitivement, puis de se dire à tout le moins, présentement, en attendant qu'il y ait d'autres mesures qui soient prises au niveau législatif pour la gestion des déchets ou la production même des déchets futurs, passons à l'action pour empêcher, par exemple, comme vous l'avez dit, les microplastiques de se retrouver partout dans la nature, dans les océans, dans les cours d'eau. À tout le monde, on est capable de limiter les dégâts en travaillant ensemble autour de ces problématiques-là.
Oui, puis il y en a de l'espoir. On le voit dans plusieurs études scientifiques. Mm-hmm. Quand on lui donne une chance, la nature est capable de résilience. Mm-hmm. Mais il faut lui donner cette chance-là. Et puis, ça existe, la résilience, dans les milieux naturels. Donc, on a vraiment le pouvoir de faire une différence. Puis, il ne faut pas penser que nos petits gestes ne valent pas grand-chose. Mm-hmm. On le voit scientifiquement, c'est prouvé qu'il peut encore avoir des actions qui changent le cours des choses, puis qui changent la donne pour remettre la nature sur le droit chemin. Donc, c'est possible de le faire.
Merci beaucoup, Lynn Morissette, et j'invite tout le monde qui nous écoute à aller voir, là, notamment pour ce projet-là avec le défi 1000 gestes pour la nature qui commence aujourd'hui. Les informations se retrouvent sur le site de Mission Milton, mais aussi sur les explorateurs Curium Débrouillard. Et puis aussi, parallèlement à ça, bien, il y a tous les nettoyages qui vont se faire avec cette tournée au Québec qui est à surveiller. C'est facile à trouver sur votre site web également. Mm-hmm. Puis il y a plein d'autres initiatives. En ce moment, je vois passer sur mes réseaux le plugathon. Donc, tu sais, les gens sortent dehors avec leurs sacs. Puis à la fin de la journée, ils calculent un peu qu'est-ce qu'ils ont ramassé comme déchets. Ils se prennent en photo, ils s'encouragent. Donc, il y a plein d'initiatives en ce moment issues de
Mission Milton. Les gens sont tellement inspirants. Oui. Ça fait une grosse différence pour la planète.
Mais merci d'être là et merci de cette grande inspiration pour toute la communauté québécoise et au-delà. Lynn Morissette, passez une excellente journée.
C'est un grand plaisir. Au revoir.
Au revoir. Et maintenant, on passe à un tout autre sujet. On passe à la célébration du jour de la banane. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir de recevoir la présidente d'Equifruit, Jenny Coleman. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Alors, j'ai été très surprise et j'ai pas pu empêcher un sourire sur mon visage lorsqu'on m'a dit que le jour de la banane existait. Je ne sais pourquoi, mais donc voilà pourquoi une journée dédiée à la banane.
Ben, honnêtement, c'est une excellente question parce qu'il y a peu à célébrer sur la banane. Je ne sais pas si c'était un pitch de marketing d'une des grandes entreprises bananières. Mais malheureusement, l'histoire de la banane en est une triste. Equifruit s'est donné la mission de changer cette histoire. Oui, il y a peut-être eu un modèle d'affaires dernier siècle, mais nous, on représente un modèle d'affaires du commerce équitable pour le 21e siècle.
Donc, on peut plutôt célébrer peut-être la journée de la banane équitable.
Dans ce oui, cas-ci, il y aurait plus ça serait mieux. On doit faire un renouvellement de cette marque-là.
De ce titre-là,
oui, tout à fait.
Quand c'est équitable, on préfère cela, évidemment. Et on se doute que ce fruit-là a une importance pour Equifruit, puisqu'il s'agit du fruit le plus consommé dans le monde.
Donc, tout à fait.
Ça peut être inquiétant, justement, considérant que la majorité des cultures de bananes ne sont pas équitables ou ne sont pas gérées au mieux. Par curiosité, combien de bananes sont consommées annuellement? Est-ce que vous savez?
Écoutez, au Canada, c'est le fruit le plus consommé. On en consomme chacune 15 kilos. Puis imaginez-vous, c'est quoi le deuxième fruit?
On dirait que je ne le sais pas.
C'est la pomme.
C'est la pomme. C'est ça, j'ai eu ça dans mon esprit, mais je n'osais pas le dire.
Mais il y a un énorme écart entre les deux. Oui. 15 kilos de bananes et juste 10 kilos de pommes. Mm-hmm. Et tous les autres fruits qu'on voit à l'épicerie sont en dessous de ces 10 kilos-là. Ouais. Donc, imaginez-vous la longueur d'avance qu'a la banane. Mm-hmm. Sur tous les autres fruits.
En termes de consommation, et moi, je serais curieuse, parmi tous ces kilos de bananes, combien sont équitables et biologiques? Est-ce qu'on est capable d'avoir des chiffres ça?
Oui, nous, on estime que c'est à peu près 3 % du marché en ce moment. Okay. Mondialement, ça n'est que 4 % des bananes visées à l'exportation mm-hmm. qui sont achetées et vendues sur des termes fair trade, équitable. Oui. Mm-hmm. Au Canada, on est un peu en dessous de cette moyenne-là.
Oui, je comprends. Et donc, les bananes avec le café, le chocolat sont parmi les premiers produits équitables que moi, personnellement, j'ai pu trouver aisément quand même dans les épiceries, les marchés fruitiers.
Oui.
Depuis combien de temps Equifruit travaille avec les cultivateurs de bananes?
L'entreprise a été fondée en 2006 par un duo mère-fille de Drummondville. Ça leur a pris à peu près un an et demi d'établir leur chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire trouver les coopératives de petits producteurs avec lesquels elles voulaient travailler, de trouver un distributeur, de comprendre tout le processus d'importation. Mm-hmm. Pardon. Et le premier conteneur est arrivé ici à Montréal en décembre 2007. La fille de ce duo-là est retournée aux études en 2010 et la mère m'a vendu l'entreprise mm-hmm. en 2013. Et nous, la nouvelle équipe de Equifruit, on a une vision beaucoup plus ambitieuse pour l'entreprise. C'est moins pour notre entreprise et plus pour notre vision de la domination de la banane équitable, mmh. comme on le dit.
Une belle domination quand même. Et justement, quel rôle vous jouez auprès des travailleurs, travailleuses que vous allez rencontrer là, de ces mmh. agriculteurs, ces cultivateurs de bananes?
Oui, donc nous, on fait un commerce direct avec les fermes ou les coopératives de petits producteurs. Et ceci veut dire que vraiment, nous, Equifruit, on agit comme le bras de vente et marketing pour ces gens-là qui, normalement, n'auraient pas accès à un marché d'exportation sur des termes équitables. Mmh. Si ce n'était pas pour des entreprises comme Equifruit, ils vendraient leur production à une tierce partie qui les vendrait ensuite à une des grandes compagnies bananières.
Oui. Donc, ça évite des intermédiaires comme ça.
C'est ça. Mmh. On a vraiment une relation donc, directe avec nos producteurs et leurs travailleurs. On fait fréquemment des visites sur place. J'étais en Équateur fin novembre. Je serai en Colombie le mois prochain. Et ce sont nos moments vraiment préférés. Je suis toujours sur une plantation. Je visite un projet qui a bénéficié de la prime sociale du commerce équitable. Et je suis un peu divisée. Je me dis, est-ce que je reste ici jusqu'à la fin de la présentation ou est-ce que je prends le prochain vol pour revenir au Canada pour vendre plus de bananes, plus de ces bananes pour avoir plus d'impact sur la vie de ces gens qui sont normalement oubliés dans nos chaînes d'approvisionnement.
Oh, définitivement. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui achètent leur main de banane à l'épicerie en pensant à la personne qui les a cultivées, récoltées, de la manière dont ça a été fait.
Non, c'est ça.
Donc, vous travaillez étroitement avec ces travailleurs, ces travailleuses et vous travaillez pour l'amélioration de leurs droits, de leurs conditions de travail, la valorisation de leur travail.
Tout à fait.
Ces personnes en tant qu'humains aussi.
C'est ça. Le commerce équitable, les droits des travailleurs, c'en est une grande partie. Mais on vise quelque chose de plus grand. On vise la durabilité de toute cette production, qu'elle soit économique, sociale ou environnementale. Donc, à la base, la certification Fair Trade, ça n'est pas une certification bio. Nous, Equifruit, on a les deux certifications, donc Fair Trade et bio. Mais même dans le Fair Trade, juste à la base, il y a un souci pour l'environnement. Il y a une restriction sur l'utilisation de pesticides, par exemple. Mais effectivement, les personnes et leurs droits à un salaire décent et à des bonnes conditions de travail, c'est ce qui me motive le plus, je dirais.
Et est-ce que vous voyez des impacts avec les changements climatiques sur les cultures des bananes? Est-ce que c'est des problématiques que vous rencontrez?
Oui. Nous sommes membres du ce qui s'appelle le Forum mondial de la banane. Et un de nos groupes de travail regarde les enjeux environnementaux de la production. Et on a eu une présentation il n'y a pas très longtemps, une modélisation avec le progrès des changements climatiques, où se déplaceront la culture de la banane. Ça passe d'énormes possibilités géographiques en ce moment à très peu d'ici, je ne me souviens plus, je vais dire 50 ans pour être... Mais moi, j'ai 54 ans, ce n'est pas long 50 ans,
non,
là.
Non, ce n'est pas long.
Et c'est sûr que nos producteurs, ils font face au premier degré des changements climatiques, que ça soit de la pluie, pas assez de pluie, des sécheresses.
Mais c'est sûr qu'ils sont dans des régions aussi qui sont davantage affectées en plus.
Oui.
Ils font partie des communautés qui sont dans les premières lignes, comme vous l'avez dit, pour subir ces changements climatiques, impacts des changements climatiques.
Donc, juste pour donner un exemple rapidement, quand j'étais en Équateur fin novembre, l'Équateur a fait un énorme investissement dans l'hydroélectricité, l'eau.
Oui.
Et là, il y a une sécheresse, donc il n'y a pas de courant. Et donc, on est rentré dans des stations d'empaquetage où, c'est pas exactement dans le noir, mais quand même, rien n'est éclairé parce que durant la journée, ils coupent l'électricité. Comment veux-tu faire prospérer ton entreprise, parce que soyons clairs, c'est pas la charité ce qu'on fait, c'est on travaille avec des producteurs pour qui la ferme c'est leur entreprise.
Oui.
Comment ils vont continuer quand il y a ces enjeux climatiques là?
Oui, il y a beaucoup à réfléchir autour des structures, autour de comment ça pourra fonctionner autrement, différemment et pallier à ce qui est en train de se produire, évidemment. Sauf que là, on va rester dans la célébration parce qu'il y a un événement
oui.
ce mercredi 16
oui,
avril,
demain.
Parce que c'est le jour officiel de la banane équitable. On va essayer de l'instaurer tout de suite. Donc, à la Maison du développement durable, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pendant cet événement?
Oui, on va écouter un film. On a travaillé sur les sous-titres. C'est un film qui a été produit à peu près 12 ans, je crois, sur l'histoire un peu triste de la banane, surtout de la violence qui l'a accompagnée, des maladies qui sont dues à la surutilisation de pesticides. Mm-hmm. Tout ça est un peu difficile. Et chez Equifruit, on essaye de ne pas se pencher trop sur le passé difficile, on essaye de présenter un futur positif avec le commerce équitable, mais il faut quand même qu'on comprenne pourquoi oui. l'existence d'une entreprise comme Equifruit. Mm-hmm. Donc demain soir, malheureusement, on parle pas mal des problèmes, mais par la suite, on va faire une discussion sur ce qu'on vient d'écouter et quelles sont les solutions devant nous.
Oui.
Et c'est ce qu'on propose.
Parfait, excellent. Donc, vous pouvez réserver votre place sur le site de la Maison du développement durable, amdd.org, donc pour demain, mercredi 16 avril, pour cet événement avec Equifruit. Merci beaucoup, Jenny Coleman, d'être venue nous parler de la banane ce matin.
Ben, ça m'a fait grand plaisir. Merci.
Merci beaucoup. Donc, on s'en va vers une courte pause et tout de suite après, on va se retrouver donc avec Stéphanie Paris, qui est directrice générale de l'Association québécoise du propane, pour parler de la décarbonation dans le milieu de l'agriculture. Et pour terminer, Alain Branchaud, directeur de la SNAP Québec, sera avec nous pour discuter de la migration des populations animales en lien avec les changements climatiques. Restez avec nous.
Le 26 avril 2025, ce sera le 45e anniversaire de CIBL, votre unique radio communautaire francophone à Montréal. Pour vous remercier de votre fidélité, les artisanes et artisans de CIBL vous préparent le 45 heures du 45e, une programmation spéciale qui débutera le vendredi 25 avril à 14 heures et se terminera le dimanche 27 avril à 11 heures. Ce sera également un événement de collecte de fonds pour CIBL. En fait, attendez pas au 45e. Vous pouvez dès maintenant aller sur CIBL1015.ca sous l'onglet « Faire un don » et ainsi marquer votre soutien pour votre radio qui surprend vos oreilles depuis 45 ans. On compte sur vous. Soyez des nôtres les 25, 26 et 27 avril prochains et merci pour votre don et votre écoute.
Le balado « La justice à cœur », animé par Maître Chantal Payé, vous invite à découvrir les histoires humaines derrière la défense des plus vulnérables. Plongez avec nous dans un univers où chaque voix compte. C'est un rendez-vous les mardis de 11h à 11h30 sur les ondes de CIBL.
Le quatrième mur.
Bon, Siri, c'est quoi, mettons, là, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
Le quatrième mur.
Parlons éducation, l'émission qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'éducation avec Patrick Pirard
et Bernard Dufour, tous les dimanches de 11h à midi, chronique, point de vue, entretien, c'est un rendez-vous.
Ah, la bouffe! Sophie Ginoux et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie. Au menu, les chefs, les artisans, les producteurs, les initiatives alimentaires, tous les développements autour du mouvement vegan, les solutions au gaspillage, découverte des produits locaux, les tendances et les événements à venir. Plaisir gourmand, mardi 18h, en rediffusion les jeudis 13h. CIBL, au cœur de la gastronomie.
CIBL.
Nous voici de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Alors, là, on parle de propane vert. Donc, le propane tel qu'on le connaît est utilisé comme carburant pour les moteurs, le chauffage, et on le connaît aussi beaucoup pour la cuisson, si on pense au barbecue, camping, etc. C'est un dérivé de produits pétroliers. On sait également que, bon, tous les types de gaz polluent de façon généralement très importante sur leur cycle d'approvisionnement et de combustion. Donc, il va de soi que dans un objectif de transition écologique, on voudrait sortir des industries fossiles, on voudrait sortir des combustibles fossiles et de les éviter autant que possible en raison de leurs impacts sur l'environnement et sur la santé humaine. Il y a toutefois le biopropane ou propane vert, là, on me dira si c'est la même chose, qui est d'origine non fossile et dont je suis très curieuse de parler aujourd'hui avec Stéphanie Paris, qui est directrice générale de l'Association québécoise du propane, la QP. Bonjour!
Bonjour, merci de me recevoir.
Bien, un grand plaisir. Donc, est-ce que propane vert, biopropane, c'est la même chose?
C'est la même chose.
C'est la même chose.
Du propane vert, on a deux façons d'en faire. Du propane renouvelable, qu'on appelle.
OK.
Avec soit des résidus forestiers ou soit des résidus animaliers.
OK.
OK. Puis, il y a une autre avenue qu'on peut avoir aussi, qui est une molécule de RDME, du déméthylère, qu'on peut produire puis injecter dans le propane, qu'il soit propane régulier ou propane vert, pour faire baisser l'indice de carbone.
OK. Donc, c'est comme ça, c'est à partir de ces matières-là et de cette manière-là qu'on peut produire le propane vert.
Du propane vert. Puis si on injecte dans le propane vert le RDME, là, on devient en bas de la carboneutralité. Fait que ça, c'est super intéressant pour la décarbonation.
Ça semble un procédé que moi, je ne comprendrai pas peut-être entièrement, là, mais je comprends qu'avec cette molécule-là, donc là, on a vraiment un produit qui est optimal.
Exactement.
Au niveau de la carboneutralité. Et le rôle de l'Association québécoise du propane, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites?
Bien, dans le fond, le rôle de l'association, c'est de représenter l'industrie du propane, donc les fournisseurs, les distributeurs, les fabricants, tout ce qui est alentour de l'industrie, puis de faire connaître l'industrie du propane au Québec.
OK. Et donc, là, quand on m'a approché pour recevoir quelqu'un de la QP à l'émission, il y avait le propane vert employé dans l'agriculture en particulier, donc dans le domaine de l'agriculture. Pourquoi est-ce que vous avez tenté cette avenue-là dans le milieu agricole?
Bien, le milieu agricole pour l'industrie du propane, c'est le tiers de notre industrie en consommation. Et pourquoi qu'on est allé vers le milieu agricole? Parce que une des choses qui est quasiment pas électrifiable, mais qui est pas électrifiable, c'est le séchage de grains. Donc, le séchage de grains, c'est une courte période, c'est 4 à 6 semaines dans l'année, mais ça représente quand même l'équivalent de 700 wagons de train, là, c'est juste beaucoup. Pour sécher le grain.
Okay.
Et puis, c'est pas électrifiable parce que c'est une grosse consommation en très peu de temps. Fait que Hydro-Québec n'est pas intéressé à venir installer. Ça prend 600 volts, 3 phases. C'est pas faisable.
Je sais qu'il y a différentes méthodes de séchage qui sont actuellement utilisées dans l'agriculture, mais j'imagine que là, on parle vraiment d'une grosse masse de production. Donc, peut-être que les méthodes plus traditionnelles sont moins appropriées ou pas assez rapides les besoins de l'industrie. Donc, le propane vert dans le milieu de l'agriculture, vous avez donc approché certains agriculteurs pour tenter.
On a fait un projet. Oui, on a fait un projet pilote qui était embryonnaire parce qu'on voulait tester le produit.
Oui.
Et puis, on a eu une belle réception. Ça s'est très bien passé. On a les mêmes paramètres. On n'a pas besoin de changer l'équipement. On n'a pas besoin de la modifier. On a la même capacité de séchage. Fait qu'on était très, très contents. Fait que là, ce qu'on veut, c'est le développer au Québec.
Oui, parce que là, c'était comme une petite cellule en laboratoire, donc pour essayer, tenter cette transformation-là, voir qu'est-ce que ça a comme impact.
Puis c'est un produit qu'on a importé des États-Unis.
OK.
Fait que là, si on l'importe des États-Unis, bien là, la carboneutralité est affectée par le transport.
Oui.
Fait que si on peut le produire ici directement au Québec, bien, on vient de s'enlever cette charge-là de décarbonation en plus.
Donc, l'idée, ça serait d'être capable de le produire à même le Québec, d'autant plus qu'avec ce que vous avez nommé comme produit source là, pour créer ce propane vert, on aurait tout ce qu'il faut.
On a tout ce qu'il faut. On a de la biomasse, on ne sait pas quoi en faire, on l'enfouit.
Oui.
Fait que là, on pourrait s'en servir. Pareil avec les résidus animaliers. Fait que c'est quelque chose qui est très viable. Puis je pense que c'est quelque chose que s'il y a une volonté du gouvernement de s'impliquer... une volonté d'investisseur, on peut faire très rapidement.
Mm-hmm. Parce que là, on entrerait dans ce qu'on appelle une économie qui est davantage circulaire et qui permettrait de réutiliser ce qui serait normalement enfoui, incinéré, qui constituerait des déchets au final.
Exactement.
Donc, le gouvernement aurait tout avantage à aller investir de ce côté-là. Est-ce qu'on sent un intérêt quand même? Est-ce que, est-ce que l'industrie a un intérêt de développer justement des usines ou je ne sais pas comment ça s'implante? Mais
je peux vous dire qu'il y a un intérêt. On s'est fait connaître avec le gouvernement. Mm-hmm. On n'était pas dans l'État de l'énergie du Québec auparavant. Mm-hmm. Puis c'est la première année qu'on est présent dans l'État de l'énergie. Fait que là, ils nous reconnaissent comme une énergie vitale pour le Québec.
OK.
Fait que ça, c'est déjà un grand pas d'avant. Puis, il y a une volonté, oui, essentiellement d'aller vers les énergies renouvelables.
Mm-hmm.
Fait que tout ce qu'on veut, nous, c'est porter le projet à bout de bras, puis trouver des investisseurs, puis des subventions pour le faire.
Puis à ce moment-là, vous jouez un rôle, l'Association québécoise du propane, un rôle clé dans ce développement-là, parce que vous allez faire les approches, c'est ce que je comprends?
C'est un rôle de facilitateur, pourrais dire.
D'accord, pour essayer
de créer des liens. C'est pas nous qui va le produire, mais on peut créer des liens avec des fournisseurs, mm-hmm. des fabricants, le gouvernement, des investisseurs.
Donc, créer des liens entre ces personnes-là pour favoriser le développement
Exactement.
Du propane vert au Québec. Et là, vous l'avez quand même abordé brièvement, ça ne demande aucun changement auprès des agriculteurs. De passer de ce qu'ils font actuellement à du propane vert ne demande aucun changement de matériaux, infrastructures, tout reste identique. Donc, c'est superbe parce que, justement, ils n'ont pas à se racheter du matériel, ils n'ont pas à changer parce que c'est une nouvelle technologie. Tout reste identique.
Tout reste identique, l'équipement, le matériel. Puis en plus, tout reste identique au niveau de la réglementation.
Okay.
Avec la RBQ ou le code CSA, tout est pareil.
Tout est pareil.
Il n'y a rien qui change.
Donc finalement, il n'y a que des avantages.
Exactement.
Pour eux, parce que ça ne coûte pas non plus cher. Est-ce que c'est davantage onéreux de passer au propane vert versus ce qu'ils utilisent actuellement?
C'est certain que quand on va commencer le propane vert, d'aller à une échelle de production, il va avoir un coût, là.
Oui,
c'est certain. Mais ce que nous, on dit, puis ce qu'on voudrait faire, c'est y aller graduellement, mm-hmm. en mettant un pourcentage, mettons, dans notre propane régulier de propane vert,
oui.
pour absorber les coûts, pour finalement n'avoir que du propane vert.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il pourrait y avoir, comme il y a déjà eu dans d'autres... quand il y a eu d'autres technologies instaurées dans différents milieux, des subventions incitatives du gouvernement pour pallier justement à la différence des coûts?
On est là-dedans. Okay. On est en train de regarder les subventions, puis mm-hmm. qu'est-ce qu'on peut faire.
Oui, pour faciliter justement l'instauration sans que ça coûte plus cher, parce que, bon, les agriculteurs ne voudront certainement pas que ça leur coûte plus cher. Ils essaient toujours de baisser les coûts de production, donc... oui, ça va être à surveiller. Et là, c'est une nouvelle technologie quand même, ici, à tout le moins, là, au Québec et par l'AQP. De quelle manière est-ce que vous faites la mesure d'impact? Là, vous avez eu vos premiers laboratoires, vos premiers espaces pour explorer. Comment est-ce que vous calculez, par exemple, les émissions de GES et la mesure d'impact globale?
Mais ce que je pourrais dire, c'est que la molécule qu'on a importée des États-Unis, c'est une compagnie qui a fait ses propres études,
ouais.
des études d'impact. Fait qu'on s'est fié à ces études-là. On a fait un peu nos propres études avec des laboratoires externes.
Mm-hmm.
Mais ça se fait à travers le monde. C'est pas une nouveauté là, du propane renouvelable. Fait qu'on a des études un peu partout en Europe, aux États-Unis. Fait qu'on se fie à ces études-là.
OK, parfait. Donc, la mesure d'impact serait sensiblement la même puisque c'est le même milieu, c'est comparable.
Exactement. Donc... Puis le propane des États-Unis, mais le propane qu'on produit au Canada,
mm-hmm.
60 % du propane qu'on produit au Canada est exporté aux États-Unis. Fait que c'est notre propane.
Ah oui,
c'est
okay.
la même chose.
D'accord, d'accord. Ouais. Oui, on oublie hein, parfois qu'il y a comme ces échanges-là. On se dit, ouais, non, finalement, c'est eux qui l'utilisent. Il y a tout ce libre-marché, évidemment, qui existe encore, malgré les petits changements qu'il y a eu récemment, les va-et-vient de taxation. Avec l'Association québécoise du propane, vous agissez à différents niveaux. On parlait tout à l'heure un peu hors onde là, de l'aspect des problématiques entourant les autobus, parce qu'il devait y avoir une électrification. finalement problématique avec Lyon, on n'aura pas de batterie, il n'y aura pas ce qu'il faut. Et vous me disiez que la QP va jouer un rôle possiblement dans cette transition-là pour au moins avoir une méthode alternative en attendant autre chose pour la décarbonation du transport scolaire, par exemple.
Oui, tout à fait, parce qu'on s'en va vers une crise. Il va manquer au-dessus de 1200 autobus pour la rentrée scolaire. Et puis, il y a déjà 800 autobus sur les routes du Québec, des autobus au propane. Les autobus au propane, c'est 25 % moins d'émissions de GES qu'un diesel. Fait qu'on vient déjà gagner de la carboneutralité un peu. Fait qu'on n'est pas la solution vers l'électrification, c'est pas ça qu'on dit. On dit qu'on est la solution transitoire vers l'électrification parce que c'est pas vrai qu'à la rentrée scolaire, Lyon va produire des autobus électriques s'il y a lieu, ou d'autres compagnies, et ça ne fonctionnera pas. On va avoir des problèmes, puis les parents vont le ressentir. Les centres de services scolaires commencent à mettre de la pression. Fait qu'on dit qu'on est une solution transitoire.
Une solution transitoire et par curiosité. Puis là, c'est un peu hors des questions que j'avais prévues, mais est-ce que le propane vert pourrait se retrouver dans des autobus?
Pourrait.
Est-ce que ça...
Ça pourrait, puis si on fait du propane vert dans les autobus, bien là, on devient en bas de la carboneutralité.
Oui, mais là, il faut le produire au Québec, idéalement.
C'est ça, c'est ça.
Pour d'abord le produire au Québec, bien, on va souhaiter en tout cas que ce circuit puisse se compléter avec une industrie québécoise pour éviter l'importation des États-Unis, par exemple, et vraiment être vraiment vers une carboneutralité ou un souhait de carboneutralité dans toute la chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup d'être venu en discuter avec nous aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu et bonne journée.
Bien, merci à vous aussi. Donc, c'était Stéphanie Paris, directrice générale de l'Association québécoise du propane. Une excellente journée à vous aussi. On termine maintenant avec la migration des populations animales en lien avec les changements climatiques. Une entrevue que je mènerai avec Alain Branchaud, qui est directeur de la Société pour la nature et les parcs du Canada au Québec. Bonjour, Alain.
Hey, bonjour, Maud, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Et toi?
Ça va bien.
Excellent, merci beaucoup d'être ici. Déjà d'emblée, pour le bien des auditeurs et auditrices, est-ce que tu peux résumer le rôle de la SNAP Québec?
La SNAP Québec, c'est un acronyme qui veut dire la Société pour la nature et les parcs. Nous, notre mission, c'est vraiment la protection du territoire public, tant marin qu'en terrestre, et toutes les politiques publiques qui ont trait à la protection de la biodiversité. D'une certaine façon, on veut rendre la nature protégée, aimée, accessible dans toutes les régions et pour 1000 générations.
C'est beau à entendre, en tout cas.
Avec, c'est ça, une approche là, basée sur la science, le savoir traditionnel, local, le savoir autochtone. Et on est un groupe porteur de solutions, là, justement, pour atteindre ces objectifs-là.
Et là, présentement, je vous ai invité aujourd'hui parce que j'avais envie de parler des populations animales qu'on voit se déplacer. C'est quoi ces populations-là qu'on voit se déplacer au Québec à cause des changements climatiques?
Bien, les meilleurs exemples qu'on peut donner, c'est le cerf de Virginie, qu'on appelle aussi le chevreuil, le raton laveur, deux espèces de mammifères. Puis c'est important de nommer les catégories d'espèces auxquelles appartiennent les espèces qui migrent davantage. À la base, il y a une question de capacité de déplacement qui est vraiment importante. Je pense qu'il y a une question qui va suivre là-dessus.
Oui, bien sûr.
Mais ce sont deux exemples, beaucoup d'espèces d'oiseaux aussi qui colonisent de nouveaux habitats, justement à cause des changements climatiques. À la base, la raison principale, c'est que le froid, qui est un facteur limitant pour le cycle de vie, pour la nourriture de ces espèces-là, maintenant devient un facteur qui, à cause du réchauffement, qui ouvre de nouveaux horizons, de nouveaux habitats. L'alimentation est le facteur principal. S'il y a de la nourriture, s'il y a de la bouffe, les espèces vont aller coloniser des nouveaux secteurs. Puis les changements climatiques n'agissent pas seuls. Souvent, des perturbations d'habitat, des perturbations anthropiques vont agir en synergie avec le changement climatique pour favoriser la venue de nouvelles espèces.
Oui, donc c'est ça. On pense, au changement climatique, au réchauffement climatique qui fait en sorte que la nourriture disponible n'est plus la même, devient inexistante. On peut penser aux feux de forêt qui vont décimer des forêts entières, des territoires là où les animaux devaient s'abreuver, se nourrir, et ils vont se déplacer. Mais il y a aussi la déforestation par la main humaine, par exemple. Il y a différents enjeux de migration dont on entend parler ou qu'on constate. Il y en a qui sont comme surpris de voir des dindons sauvages en ville de plus en plus.
Ouais, on peut donner d'autres exemples aussi. Au niveau marin, il y a la baleine noire, qui est une espèce en voie de disparition, qui occupait beaucoup le secteur de l'océan Atlantique du sud-est des États-Unis. Mm-hmm. Et à cause des mouvements à cause du réchauffement, des mouvements de nourriture, des copépodes qui sont plus au nord, l'espèce est maintenant beaucoup plus présente au Québec, dans mm-hmm. le golfe du Saint-Laurent, ce qui cause des enjeux de gestion aussi, des pêches. Et c'est un autre exemple. Si on parle, là, on a parlé d'espèces qui sont indigènes, qui ont migré mm-hmm. plus au nord. On a aussi des espèces qu'on n'avait pas avant, qui ont migré vers le Québec, comme l'opossum d'Amérique, qu'on ne retrouvait pas avant, maintenant qui est bien établi dans certaines régions du Québec. L'opossum, là, c'est un marsupial qui est un peu comme les kangourous, qui est à peu près la taille d'une marmotte, là, un petit mm-hmm. peu plus petit qu'une marmotte, là, mais une belle bouille. Mais
oui, c'est ça.
Bon, on ne sait pas encore quel impact ça va avoir sur la communauté animale, sur les... puis donc, à chaque fois qu'une espèce arrive, bien, ça peut entraîner des réactions en chaîne puis bouleverser les communautés et les écosystèmes.
Mais oui, c'était une de mes questions, d'ailleurs, l'impact sur les milieux, notamment qui sont désertés par ces animaux-là, mais aussi sur leur santé à eux dans le déplacement ou dans le souhait de trouver un nouvel espace où se nourrir ou s'abriter. Et les nouveaux milieux investis aussi, parce qu'ils n'ont pas nécessairement de prédateurs. Ils peuvent devenir une espèce envahissante parce que là, le milieu est transformé. C'est quoi les impacts qu'on voit?
Quand on analyse cette situation-là, on doit regarder justement les prédateurs. Est-ce qu'il y a des prédateurs pour contrôler la population qui vient coloniser un nouveau secteur? Les compétiteurs, est-ce qu'il y a de la compétition? Au niveau des parasites aussi, les parasites agissent souvent comme des contrôleurs. Ils vont contrôler la taille de la population, les maladies. Mm-hmm. Et évidemment, donc, la nourriture qui vient entrer en ligne de compte. Souvent, une espèce qui colonise un nouveau milieu, si elle est efficace, elle va transporter parfois des parasites qui vont aller affecter les espèces qui sont déjà présentes. Dans certains cas aussi, elle ne sera pas affectée par les parasites qui sont présents. Donc, il y a différentes situations possibles, il y a différents scénarios, mais souvent, c'est ce qu'on observe. L'espèce qui arrive a un avantage parce que les prédateurs ne sont pas habitués avec de se servir de cette nouvelle espèce-là comme nourriture. Les parasites ne sont pas tout à fait parfaitement adapté à cette espèce-là, ce qui fait que c'est ce qu'on voit beaucoup dans les espèces exotiques envahissantes, c'est qu'il va y avoir une augmentation rapide de la population avant que ces facteurs-là externes, les maladies, les parasites, les prédateurs, puissent s'adapter et venir contrôler la population. Donc, à terme, c'est ce qu'on voit qui arrive, mais entre-temps, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur les écosystèmes. On peut penser à la grille du frêne, par exemple, qui est venue... littéralement changer le paysage des forêts dans le sud du Québec et dans le nord-est de l'Amérique. Donc, c'est le genre de conséquences qu'on peut observer jusqu'à épuisement des ressources. Et on le voit que dans certains cas, ça peut être aussi un moteur pour la migration. Dans le cas du cerf de Virginie, du chevreuil, la compétition intraspécifique entre les chevreuils pousse aussi à coloniser de nouveaux endroits. Mm-hmm. Les changements climatiques aident à faire en sorte qu'on ait accès à des nouvelles ressources. Donc, c'est pour ça qu'on voit une expansion de l'aire de distribution de cette espèce-là qui est quand même importante. D'une façon générale, les espèces qui sont généralistes, les espèces qui n'ont pas des spécialisations au niveau des besoins en habitat ou des besoins en alimentation, vont être les espèces qui vont être les mieux adaptées à des bouleversements comme ceux qu'on observe avec les changements climatiques.
Et est-ce qu'on sait à peu près combien de temps ça prend? Est-ce qu'il y a des exemples d'adaptation d'un milieu ou de tout cet univers, tout cet écosystème autour d'une espèce migrante qui arrive, ça peut prendre combien de temps avant s'adapte?
Ça va dépendre des cycles de vie d'une espèce. Une espèce qui est envahissante, mais qui a un cycle de vie plus long, ça va prendre quelques générations avant que l'espèce soit bien établie. Souvent, ce qu'on va observer avec les espèces qui ont un cycle de vie rapide, c'est une colonisation très rapide, puis on va tasser finalement, littéralement, les espèces indigènes qui sont présentes au point de les faire disparaître ou de les pousser ou les retrancher dans d'autres endroits. Il y a des espèces qui... ce qu'on observe en ce moment, c'est entre... à chaque 10 ans, c'est environ de 100 à 200 kilomètres de progression des écosystèmes dans les endroits les plus affectés par les changements climatiques. Le sud du Québec est un des endroits qui est le plus affecté au monde. Et j'ai vu une étude où on disait que Montréal, Québec, la ville de Québec étant la plus touchée, mais Gatineau, Montréal et la ville de Québec seraient les villes qui allaient accueillir le plus de nouvelles espèces dans les prochaines années à cause des changements climatiques, à cause de ces réfugiés migratoires qui viennent coloniser des nouveaux habitats.
Oui, donc préparons-nous à les accueillir parce qu'oublions pas qu'on est quand même dans une forêt normalement. On l'oublie parce qu'on est entouré de buildings puis de béton, mais on est quand même au milieu de leur habitat. Puis certains trouvent ça anormal et même dérangeant de voir ces animaux arriver. Puis il y a comme une espèce de combat de citoyens de dire « mais laissez-les vivre, là, sont dans leur milieu. » Puis les autres « non, il faut s'en débarrasser, il faut les éloigner, comment on fait? » Donc il y a quand même ce combat-là au niveau urbain. Qu'est-ce que ça impose comme défi pour des équipes comme à la SNAP Québec qui travaillent à la protection de la biodiversité, à la création d'aires protégées et des espèces qui habitent ces milieux?
Ouais. Une des choses qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la principale cause de déclin de la biodiversité, c'est la perte d'habitat.
Oui.
Donc, il y a urgence d'aller sécuriser les habitats restants et de faire de la restauration dans certains secteurs, d'avoir une vision aussi au niveau de la mise en place des aires protégées qui tient compte de la connectivité. C'est un autre facteur important pour l'adaptation au changement climatique. On l'a dit tantôt, il y a des espèces qui ont une capacité migratoire plus grande, les oiseaux, les mammifères, d'autres, beaucoup moins, comme les amphibiens, les reptiles, qui risquent d'être des victimes encore plus grandes des changements climatiques à cause de ces facteurs-là. Donc, dans la planification des aires protégées, penser à la connectivité, mais aussi agir rapidement. Parce que les habitats qu'on protège aujourd'hui, peut-être que dans 15, 20, 30 ans, n'accueilleront pas les mêmes espèces qu'aujourd'hui, mais ils seront aussi des terres d'accueil pour les autres espèces qui vont venir coloniser. Et c'est la même chose pour les habitats plus au nord qu'on va protéger. On a une cible en ce moment de 30 % de protection du territoire d'ici 2030. Donc, il faut vraiment tout faire pour atteindre cette cible-là. 30 % on s'approche de ce que la science demande en termes de protection du territoire. Mais surtout au niveau terrestre, on pense que 50 % de protection du territoire serait beaucoup plus proche de ce qui nous permettrait de pallier à la crise de la biodiversité et permettre justement ces adaptations au niveau des espèces. Dans certains cas, peut-être donner un exemple en marin où l'arrivée des baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent a forcé Pêche et Océan Canada à mettre en place des mesures de gestion des pêches qu'on voyait appliquées aux États-Unis, mais qui n'étaient pas appliquées au Canada, justement, pour tenir compte du fait qu'une nouvelle espèce qui est très vulnérable à l'empêtrement dans les engins de pêche soit pas affectée par ça. Donc, ça a eu des conséquences sur des fermetures de pêche temporaires dans certains secteurs où on observait la présence d'une baleine noire. Donc, ces genres de situations... qu'il faut provoquer de voir la protection du territoire dans une forme de gestion adaptative, mais la protection à long terme et à perpétuité de secteurs, c'est hyper important. Donc, ça, il faut vraiment continuer à faire ça.
Et vous, vous travaillez vraiment activement sur tous ces dossiers-là de protection pérenne, là, qui ne changera plus comme statut de protection. En ce moment, c'est quoi vos grands dossiers puis comment la communauté québécoise peut contribuer?
Il y a plusieurs projets d'aires protégées, tant en terrestre qu'en marin. Je pourrais nommer quelques campagnes qu'on fait, entre autres la protection de la rivière MacPay sur la Côte-Nord, qui est un dossier qu'on souhaite clore le plus rapidement possible. C'est une des seules rivières de la Côte-Nord qui n'est pas harnachée. Il y a un petit barrage au fil de l'eau là, à l'embouchure, mais le reste, c'est un environnement incroyable qui est important pour les communautés inoues du secteur. C'est un potentiel de développement récréotouristique incroyable. Donc, les gens peuvent venir appuyer cette campagne-là en allant sur notre site, snapquebec.org. autrement, on a des projets qui sont plus près aussi de Montréal. Entre autres, on travaille en ce moment à restaurer l'île Sainte-Thérèse, qui est une île de 5,4 km² adossée à l'île de Montréal, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, mm-hmm. et qui est une terre publique et qu'on souhaite voir transformée en grand parc urbain. Donc, on travaille avec la ville de Montréal, la ville de Varennes et la CMM, entre autres, pour mettre en place ce grand projet-là. On a du financement là, pour faire de la plantation d'arbres là, dans le programme des 2 milliards d'arbres là, du gouvernement fédéral. Donc, des projets assez variés pour la protection de la biodiversité. Il faut... les gens qui souhaitent combattre le cynisme en environnement puis s'impliquer davantage, on a mis en place une plateforme... pour les gens qui veulent s'impliquer en environnement puis faire du bénévolat. Mmh. Ça s'appelle Volontaire Québec. Okay. Alors, pour aller sur le site, c'est volontaire.québec, terre, T-E-R-R-E. Mmh. Et c'est une belle opportunité pour les gens d'aller justement donner du temps. Il y a beaucoup de gens qui ils se demandent, mais comment je peux faire pour mm-hmm. aider? Puis à ce moment-là, ça peut être pour n'importe quelle organisation, pas nécessairement la SNAP Québec, ça peut être Équitaire,
oui, c'est la ça, Fondation c'est comme un regroupement là, d'actions possibles. Oui, mais oui, puis il y a toutes sortes de manières de s'impliquer. Je pense entre autres à la Coalition des Montérégiennes, où est-ce que les gens peuvent aller bénévolement faire du recensement dans les espaces verts là, à travers les Montérégiennes pour recenser des plantes.
C'est le Tinder de l'environnement. Oui, c'est ça. Donc, les gens vont dire qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, puis les groupes vont dire qu'est-ce qu'on a besoin.
Voilà.
Puis on fait des matchs entre les gens.
C'est des très beaux matchs. C'est mon genre de match. Donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur ce que fait SNAP Québec à snapquebec.org, comme le dit Alain Branchaud. Et puis sinon, donc volontaire, T-E-R-R-E, si vous voulez vous impliquer davantage. Merci beaucoup d'être venu parler ce matin de la migration des populations animales. C'est un sujet qui me touche particulièrement, puis je suis très heureuse d'avoir eu la chance d'en discuter avec toi, Alain Branchaud.
Au plaisir. Bonne fin de journée.
Merci. Bonne fin de journée. Alors, c'est déjà la fin pour nous aujourd'hui. J'aimerais rappeler que bientôt, nous aurons notre 100e émission de l'Effet durable. On est très heureuse de pouvoir célébrer ça avec vous. Et on va vous préparer quelques petites surprises pour cette 100e émission. On vous revient bientôt avec quelques détails, mais on aura sûrement besoin de vous, chers auditeurs, auditrices, qui êtes fidèles au poste. Et donc, la semaine prochaine, on s'entretiendra avec Isabelle Fortier de Ego Eco, soutier pour aller mieux dans un monde en crise. Francis Waddell et Louis-Frédéric Véraud-Giroux viendront nous parler de la marche pour le jour de la Terre du 26 avril prochain. Je reçois également la grande docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers, qui est médecin et auteur, pour nous parler de son nouveau livre, son premier livre, Santé planétaire, prescription médicale pour un environnement sain, aux éditions Éco-Société. Et j'aurai aussi la chance de recevoir Valérie Langlois, professeure à l'INRS, qui est experte en écotoxicogénomique et endocrinienne. Elle est autrice également et nous présente sa nouvelle série de livres jeunesse « Prof, Planète et sa brigade » aux éditions Multimonde. Un grand merci à Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Un immense merci à nos invités du jour et on se retrouve la semaine prochaine. Une belle journée à vous sur nos ondes.
Que revoir un coin de pays. Pas flasher que les aurores boréales auraient un meilleur goût de revenir ici. Et nos maelstroms de champs, nos poêles de lac, nos slacks de route, notre bitume écarlate, éparpillés en quelques souvenirs éparses. J'espère que la prochaine fois qu'on se voit, ce peu passe là. L'amour me chie encore demain. Que l'amour est encore cheap, c'est l'endemain. Que l'amour encore roché dans des
Trade Union, c'est la rencontre hebdomadaire de toutes les générations. C'est en studio, en direct, tous les vendredis à 14h et en rediffusion les lundis à 13h30. C'est sur les ondes de CIBL 101,5.
Sophie Ginoux et Gilles Dameneux, jazz bouffe. Plaisir gourmand, tous les mardis, 18h. CIBL, au cœur d'Artichaut.
Les Ors d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal qui met en lumière les figures de la musique arabe, qu'il s'agisse de chanteurs, compositeurs, poètes et écrivains. Ce programme vise également à clarifier les formes musicales arabes et inclut une station qui parle de musiciennes et de musiciens les plus importants du monde arabe et leurs compositions. Les Ors d'Orient, chaque mercredi 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 FM Montréal.
Excusez-la.
Vous aimez le folklore et la tradition? Eh bien, Excusez-la est le rendez-vous tout indiqué pour vous. Il s'agit d'une émission dédiée à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise qui explore différents volets, que ce soit par des entrevues avec les artistes, par leur apparition de nouveautés ou par des chroniques sur des sujets précis. En compagnie de Marc Bolduc, tous les dimanches de 17h30 à 19h. Soyez au rendez-vous et en avant la tradition.